Je suis. Eh oui, on est toujours là. La voici, j'y suis, à 15h, sur France Inter.
Eh ouais, on est toujours là. Bonjour à tous, nous sommes toujours là pour cette 25e année de Là-bas, si j'y suis. Et ce n'est qu'un début. La fesse ronde et le téton pointu, on est comme les poireaux. Le poil blanc et la queue verte. Tout va bien pour Là-bas, si j'y suis. Mais oui. Vous le savez, l'animateur capitaine de cette émission a été couronné par le Grand Prix de la SCAM pour l'ensemble de son œuvre, vous vous en souvenez. Les résultats d'audience de Là-bas, si j'y suis, sont bons. Nous continuons de battre un record d'écoute sur cette tranche horaire. Donc, tout va bien et par conséquent, la direction de France Inter a décidé d'alléger notre travail pour nous récompenser en supprimant une heure de Là-bas, si j'y suis. Au moins, voilà, on sera désormais du lundi au jeudi. Voilà, c'est une décision de la direction qui se traduit évidemment par une réduction du budget de Là-bas, si j'y suis, et qui affecte effectivement les reporters et l'ensemble de l'équipe. De tout cela, nous reparlerons parce que, vous le savez, on commence beaucoup à parler des conditions de précarité du travail sur Radio France en général et sur France Inter également. Et ce sera un thème sur lequel nous reviendrons au cours des semaines à venir. Alors, une heure de Là-bas en moins, ça fait pas que des malheureux. Il faut bien qu'on observe que nous n'avons pas que des amis. Et à l'extrême droite, comme à l'extrême gauche, il y a des gens qui sont très heureux aujourd'hui d'apprendre cela. De tout cela, nous reparlerons dans les semaines qui viennent, je le répète. Mais aujourd'hui, c'est la rentrée. C'est le retour avec des mots comme la grille, la nouvelle grille, la chaîne, etc. Alors nous, on va rentrer un petit peu, mais mollo, on va passer à travers champs, par les chemins de traverse, les chemins côtiers. On va se faire une balade. Comment on fait finalement tout au cours de l'été, c'est-à-dire avec des imprévus, des inaperçus, des aperçus, des choses qui ne sont pas aussi construites que ce qui se passe dans le reste de l'année, et ces choses-là qui s'enchaînent les unes derrière les autres dans le déroulement temporel de nos vies, est-ce que ça a une cohérence? En tous les cas, ce qu'on entrevoit dans les vacances, c'est ça, c'est que ça pourrait être autrement. Alors c'est dans cet autrement que je vous propose d'aller aujourd'hui pour commencer cette nouvelle saison de Là-bas, si j'y suis. Et oui, on est toujours là.
Colette Dolbecq, Paris 20e. On vous attend avec impatience. Dépêchez-vous, parce que vous nous manquez beaucoup. Salut.
Ouais. Eh ben, c'est vraiment la rentrée. Hein. Je viens d'entendre les deux cons de la Matmute.
Eh ben, bonjour. Enfin, voilà Mermet qui arrive. Tant mieux. Je suis content, parce que vraiment... Oh là là, quelle mélancolie cet été. Oh là là. Inter, vraiment, hein. Moi, pas un bon. Enfin, c'est comme ça, c'était l'été, c'est comme ça, voilà. Allez, Daniel, ben, écoute, bonne rentrée, et puis surtout, quoi, régale-nous avec de très bonnes émissions.
Et pour moi, les affaires de harcèlement ne sont jamais classées. Mais ça ne m'étonne pas que tu sois comme ça, parce que les enfants de pauvres, lorsqu'ils sont chefs, deviennent cons. Et c'est ton cas. Rien qu'en politique, je pourrais t'en citer 10. Parce qu'il faut que vous prouviez à vous-même et aux autres que vous êtes meilleurs. En plus, tu as un mois de moins que moi, et il y a longtemps que tu aurais dû remettre ton émission à un jeune.
Le pigeon. Sur une plage naturiste, s'est posé un pigeon voyageur. Ce n'est pas un exhibitionniste, non. Simplement un pigeon voyeur. C'était le poète au poil. Salut.
Salut Daniel, c'est Pochon. Bah, je voulais te remercier de m'héberger là, après mon expulsion en pleine trêve estivale. Ah, le service public n'est plus ce que c'était. Hein. Ça, tu m'avais accueilli jeune enfant d'inter en 93 et là en 2013 je rentre au bercail. Je te dis merci. Bon, je te laisse, je vais faire un tour au camping de l'Estac là. Allez, à plus. Ciao.
Oui, ça aussi c'est la nouveauté de la rentrée de la Bastille Suisse, c'est qu'on va héberger un réfugié en fin d'heure. On a mis une petite tente de camping au fond de notre jardin de là-bas, si j'y suis. Et dedans, on a accueilli Hervé Pochon avec sa famille, ses quatre enfants. Et il nous fera une petite, un petit pochon, un petit temps de pochon. Hein, pour finir cette heure, vous aurez droit à 5 minutes, 6 minutes de pochon en plus. Et puis... auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, je suis un de vos auditeurs sur France Inter et j'ai juste appelé pour vous dire, pour vous demander si vous êtes ouvert au pouvoir, si vous êtes revenu de vacances. Voilà, c'est tout.
Bonjour à tous. En cette veille de vacances scolaires, je vous appelle pour rappeler à vos auditeurs que ces enseignants, dont on dit qu'ils ont tant de vacances, vivent de très grosses difficultés et font partie d'une profession très exposée au stress, aux violences, aux jugements subjectifs et aux changements continuels et usants. Notre hiérarchie semble engager des recherches coûteuses et inutiles là où il suffirait de limiter le nombre d'enfants par classe et de classes par école. Ce témoignage pour faire savoir que beaucoup vivent dans le désarroi qui se termine de plus en plus par des suicides dont on ne parle ni sur les médias ni aux collègues de nos écoles. C'est si simple de rayer le nom d'un bon soldat qui a œuvré pendant 30 ans avec son cœur et son sérieux. Ce message en hommage à notre amie et collègue Chantal qui s'est suicidée le 4 avril et dont nous n'avons pas encore appris le décès par notre hiérarchie. Par contre, elle est déjà remplacée. Merci, Daniel Mermet.
Oui, bonjour, c'est la maintenance là, pour un simple essai sur le répondeur de Mermet. Oui, ça paraît, oui, celui-là va doit être planté aussi. Donc là, pour le 7e étage, c'est bon, on va aller au 6e. A plus, au revoir.
Salut à toute l'équipe, salut Daniel, salut à tous les AMG, c'est la rentrée.
Voilà, donc c'est toujours pour un essai de la maintenance, voilà, donc le 7, répondeur Mermet, sur le 7e étage, ça fonctionne toujours. Ok, merci, au revoir.
Tiens, ça tu vois la villa rouge là-bas avec sur pilotis, eh ben c'est la villa de Messaliage. C'est là que ouais l'exilé politique Messaliage du MNA, leader du MNA, était exilé. Je reconnais cette maison, belle maison. Hein. Il avait une vue magnifique. Je pense bien que c'est celle-là, c'est celle-là, ouais, c'est celle-là. C'est la petite plage de Ramonette. Petite plage de Palais, puis là on a toute la côte. Là-bas c'est Bordardoué. Là-bas les grands sables. Une toute petite brume, regarde. Magnifique, un petit voile, un petit calque. On dirait une feuille de papier calque sur l'horizon, sur les lointains. Ce qui est bien à Belle-Île, c'est que si t'as pas de rouge, tu peux peindre quand même. Il n'y en a pas. Tu peux très bien t'en sortir sans rouge. Salut, c'est Daniel Mermet. C'est là-bas que j'y suis avec Anaël Verzo dans les fougères, nos bicyclettes.
Flight number 2, arriving from New York.
Les oiseaux à bord nord.
Regarde ça là. Juste la petite touffe de lumière là. Entre les rochers, les quoi. C'est une splendeur. C'est très vert là, ces jours-ci. Je me demande si les oiseaux prennent du plaisir. Parce que s'ils prennent du plaisir, c'est vraiment pas juste. Moi, j'ai l'impression qu'ils font n'importe quoi. Qu'ils savent pas ce qu'ils vont faire dans la dixième de seconde qui suit. Par exemple, celui-là, là, cette espèce de grand dadais qui passe là.
C'est une mouette.
Oui, au fond, une espèce de... Je sais pas quoi. Goéland... Regardez ce qu'il sait où il va. L'autre qui est en train de prendre son virage, bon, il est. Voilà, il braille, mais de quoi? Ah, c'est peut-être parce qu'il s'approche du nid, ouais. Ouais. Moi, je crois qu'ils font n'importe quoi. Je ne peux pas expliquer leur conduite autrement que par le plaisir. Mais si c'est ça, s'ils prennent du plaisir, c'est vraiment accablant pour nous. C'est pour l'espèce humaine, regarde comment on est là. Collé sur notre rocher, il va falloir qu'on grimpe, là, on va jusqu'à nos vélos, on va en baver encore, il y a tout ça à grimper. Tout. Ils s'en foutent, regarde, mais ils s'en foutent complètement, quoi. J'en ai ras-le-bol, moi, des oiseaux.
T'es jaloux.
Un peu, voilà. Ça, c'est, je trouve insupportable de voir des oiseaux comme ça. Là. Non, franchement, ces oiseaux me foutent le moral à plat, quoi. Tu te rends compte d'une découverte? Si les oiseaux prennent du plaisir. Regarde ces deux-là qui apparaissent pendant deux noireaux, là. Hop, il a fait demi-tour. Tu veux m'expliquer la conduite de celui-là? T'as vu, il s'est planqué derrière. Et lui, il continue. Tiens, regarde, il plane maintenant. Voilà, il s'est mis en roue libre. Tu sais ce que c'est, lui? C'est simplement pour faire glisser son ombre sur la colline, là-bas. Pour impressionner je ne sais qui, nous. Voilà. Putain d'oiseau. Putain d'oiseau. Les oiseaux à Borna. Le poulet de Mimi. La poursuite du bonheur. Le récit du naufrage. Les retrouvailles. C'est... ce qui se passe, ce qui va se passer entre le moment où le bateau arrive et le moment où le bateau s'en va. Des photos de vacances, tout simplement. Vous vous souvenez? Parce que ça disparaît de ce moment où on sortait de chez le photographe à la rentrée, comme ça. On emmenait les films qu'on avait faits et puis on sortait de chez le photographe avec les boîtes de photos. Vous vous souvenez de ça? C'est fini maintenant, parce que maintenant tout ça c'est numérique. Et dans la rue, on regardait les photos en sortant de chez le photographe, le cœur battant. Oh, est-ce que c'est réussi? Est-ce que c'est pas réussi? De quoi j'ai l'air sur les photos? Et puis l'histoire avec celle-ci, avec celle-là, il faut peut-être que je les planque, celle-là. Et puis les copains, les moments, les instants. Ces moments différents, où, vous savez, c'est comme la chanson de Brassens, les bonheurs entrevus, des moments entrevus où les choses pourraient être différentes, où la vie pourrait être différente, mais après, évidemment, c'est bien vite le retour à la normale. Reste quand même coincé dans la mémoire des images. Des images, et il y a quelqu'un qui a su magnifiquement... Les dessiner ces images-là, c'est Pierre Barou dans cette chanson magnifique à bicyclette. Quand le soleil à l'horizon dessinait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu, content, etc. J'adore cette image. J'ai essayé, souvent peut-être vous aussi, tout en roulant en vélo, de photographier ma silhouette sur les buissons. Et j'avoue que j'y suis jamais arrivé. J'ai toujours eu envie, j'ai essayé, j'y suis jamais arrivé. Peut-être qu'on va arriver, on va y arriver. D'ici à 16h, dans la base, j'y suis. Dans les fougères, nos bicyclettes.
Comment 追いかけて丘を駆け上る朝の道、自転車仲間のわんぱく5人が憧れる人はアポレット、彼女の前では誰もが大人のふりして、見えない天使の羽つけて走る水平線まで、アビシクレット郵便を配るパパを追いかけて、長い道自転車乗りなら八つの時から誰にも負けない、アポレット、みんなで自転車投げ出し無邪気に遊べば、蝶々やバッタやカエルも飛び出す川のほとりまで、アビシクレ
City.
Les poulets de Mimi Ribouchon.
Alors les fifis ? Oh ben oui ! Allez, venez les fifis ! Allez fifis !
Ça, c'est une des dernières fermes de Belle-Île. Il y en a encore quelques-unes, mais celle-là, je la connais depuis des années, des années, des années. Et ce qu'on voit là devant la ferme, c'est vraiment la brouette avec le fumier, avec les poules qui se baladent partout, les oies, les canards qui se baladent, le tuer à cochon, il y a encore un tuer à cochon, elle fait ses cochons, il y a le fer à cheval au-dessus de l'écurie là, et ça c'est la famille Ribouchon, enfin il y a beaucoup de Ribouchons ici à Belle-Île, mais ça c'est une branche de la famille Ribouchon, et moi j'ai connu, tel que tu me vois là, Désiré Ribouchon, que j'ai connu il y a 25 ans, qui était le paysan. Il est mort depuis. J'ai connu sa mère, elle est morte depuis. C'était une femme étonnante, penchée comme ça en avant, tout en noir. J'ai le souvenir qu'elle était tout en noir. Elle est morte aussi. Et aujourd'hui, c'est Mimi qui habite là, à qui on achète des poulets formidables. Ça, c'est le bonheur, c'est le régal. Chaque année, les poulets, des canards. On va descendre de bicyclette et on va aller voir Mimi.
Bonjour.
Bonjour les enfants.
Je l'avais habité sous mes lapins et puis maintenant je vais soigner mes poulets, ils en ont de l'eau. Oh non, David, c'est chaud.
C'est chaud ?
Oui, c'est chaud.
Poule ? Poulet ?
Poulet ?
Poulet pour demain ?
Demain soir, alors.
Ouais, un poulet pour 4, c'est bon. Un bon gros.
Ben, ici, ils font quoi, 2 kilos, j'ai tué. Ceci, c'est 1 kg 9 pour ma belle-fille, mais attends.
On va aller voir.
J'ai tué pour ma copine, non, 2 kilos. Tiens,
ouais.
Vous êtes des grands mangeurs ou pas? Combien que vous êtes?
On a un bon appétit, hein.
On mange les papiers.
Mimi, c'est vos petits-enfants?
Ça, c'est les petits-enfants de mon fils, de mon plus jeune fils.
Ouais.
Et ma princesse, elle va avoir 10 ans dans un peu de temps.
Ouh, la princesse.
Oui, c'est la princesse, c'est le fils.
Des photos, des poules.
Oh, non, oui, elle, tout. Elle a été à prendre en photo les lapins à mamie et tout.
Ah.
Ouais.
Vous avez quel âge, vous?
Oh, je compte plus. Attends, ouais. Il y avait 15 ans entre parrain et moi. Parrain 83. Ah, moi, c'est 68. Je suis une fille de la guerre.
Ah bon?
Je suis née 15 ans après parrain.
J'ai connu votre maman, hein.
Ma maman, il va avoir 18 ans, là, au mois de décembre.
Elle est morte?
Décembre 95. Ouais,
je me souviens bien d'elle. Je me souviens bien d'elle, hein.
Oui, à 95.
Elle n'a pas perdu
son fils. Mon fils, moi, qui a perdu mon fils.
Vous avez perdu votre fils en mer?
Non, il a sauvé une vie donnant. Puis il a laissé la sienne.
Une
fille de 8 ans.
Ah, il a essayé de sauver une
Il l'a sauvé.
Ah, il l'a sauvé. Et lui?
Il a resté. On croyait qu'il était parti dans les blocos avec une gonzesse. Il avait 17 ans. Hein.
Ouais, ouais.
Ah, ça aurait été mieux qu'il aurait été dans les blocos que là où il était. Hein. Et on l'a trouvé 9 jours après à la Rose Percée à Poticurie.
C'était quand ça?
Le 11 juillet 82.
Et puis, la ferme, vous avez quoi? Vous avez poulet, lapin?
Canard, et puis c'est tout. Canard. Puis le fils fait des moutons, lui.
Ah oui?
Celui qui est à la ferme, là, il fait des moutons, lui.
Et vous faites un peu de blé de...
Ah ben, de céréales, c'est l'orge et l'avoine, puis du foin et des betteraves. Ouais.
Qu'est-ce que vous faites l'hiver?
Bah, l'hiver, j'ai toujours mes bêtes, j'ai toujours l'occupation. Bon, puis l'hiver, je rentre de bonne heure parce que je reste pas ici tard. Quand il fait nuit, je m'en vais parce que j'ai les chocottes.
Vous avez peur de quoi?
Bah, dis donc, tu crois pas que j'entends pas parrain et maman? Et dis donc, je suis née ici, tu crois que je les entends pas tout?
Vous entendez les morts?
Ah, ils viennent vous visiter?
Non, mais enfin bon, pour moi, ils sont par là et tout, je ne dormirai pas ici. Comme dirait l'autre, on a les chocottes.
C'est votre chien, là, qu'on entend?
Non, le chien du fils, c'est pour moi. Moi, j'ai pas de chien, j'ai que des chats. Et encore, j'ai plus grand chose. Et encore, j'ai plus grand chose.
Oui, oui, voilà, oui, oui.
Alors là, vous avez des images de Lourdes. Vous êtes allé à Lourdes?
Oui.
Ouais.
J'ai été à Lourdes. Et j'ai été en 84 après mon fils. Et sur l'esplanade à Lourdes, il y a une grande esplanade avec la Sainte Vierge et tout. Elle lui a parlé à Lourdes, il y avait tous les...
La Sainte Vierge lui a parlé.
Elle lui avait dit que de toute façon, qu'elle avait besoin de lui et qu'elle devait le prendre.
Ah,
alors moi, j'avais mal dans une jambe, j'avais comme des plaies, si tu voulais, véricules, enfin, mais que je ne pouvais plus marcher. Plus on soignait, plus ça faisait des trous, si vous voulez.
Voilà.
Le médecin des arbres connaissait le maire de Mangor, il me donnait un tas de choses, même à la cortisone, j'avais la misère à marcher. Alors je suis allée à la grotte de Lourdes et puis j'ai dit, écoutez, vous avez pris mon fils, eh bien, vous pouvez quand même me faire un miracle. Eh bien, assis sur la grotte, là, si vous voulez, je mettais mon pied dans l'eau. Je suis revenue, ma jambe s'est guérie petit à petit. Et je suis allée voir Desart après. J'ai dit, t'as vu, puisque Desart, il m'en a. Et il m'a dit, qu'est-ce que t'as mis dessus? Ben, j'ai dit, tu devinerais pas ce que j'ai mis dessus. Il me dit non. Eh bien, j'ai dit, j'étais à Lourdes pour mon fils, là, il y a un mois. Eh bien, t'as vu ma jambe? Il me dit, c'est pas vrai. Ben, j'ai dit, si, c'est Lourdes. Et tu vois, depuis, ben, j'ai plus rien. Et ça s'est guéri.
C'est un miracle, hein. C'est un genre de miracle.
Enfin bon, c'est comme ça la vie. Mon Dieu, quel vite, tiens.
Coucou.
Mais alors, de quoi vous vivez alors?
J'ai à la retraite, mais j'ai pas grand chose de retraite. J'ai quoi? Pas beaucoup plus de 200 euros par mois, c'est tout.
Oh là là.
Alors, c'est pour ça que j'ai un petit peu de volaille que je prends comme ça pour payer l'eau, l'électricité ou ce que j'ai à payer, quoi. Puis maintenant, ben, ma retraite, il entend dire tout pour payer ma voiture. J'ai changé ma voiture, ben, je l'ai pris à crédit. J'ai 170 euros à donner tous les mois pour ma voiture. Parce que je me disais, si je ne change pas ma voiture maintenant, ben après, je ne la changerai plus, parce que plus on va, plus on vieillit. Puis moins on a de crédit aussi.
Ouais.
Alors, du coup, l'autre, c'était une bonne voiture, mais elle avait 14 ans, 160 000 km. Du coup, j'ai eu cette site, quoi.
Mais c'est là, ça marche.
Ah oui. Alors, j'ai 170 euros à donner pendant 2 ans, quoi.
Ah oui, vous voulez sortir.
Ben oui, mais enfin bon. Alors je vends un peu de volaille, ou bien alors si je vends un cochon, ben je garde l'argent de mes cochons. Si j'ai pas besoin, ça me sert pour payer mes factures après, si vous voulez.
Vous en sortez comme ça, quoi.
Oui.
Bon, ben on vient chercher notre poulet demain, là.
D'accord, on va attraper un gros si on peut. On pompera le cul.
On me prend le cul.
On va pomper leur cul pour qu'ils soient plus gros.
Ah bon, c'est sûr.
À demain.
À demain.
À demain.
Au revoir.
C'est ça,
oui,
merci.
Au
revoir. La plage.
Si c'est pas le bonheur, c'est bien limité quand même. Si c'est pas le bonheur, c'est bien limité. Les couleurs aujourd'hui sont fabuleuses.
Juste une petite maison blanche de temps en temps, mais pas beaucoup, pas trop.
On a été très malins ici, on a su une sagesse quand même.
Et des intérêts aussi. Qui a fait que le paysage n'est quand même pas trop abîmé ici, à Belle-Île.
Ah, il y a les fougères, magnifiques.
Et puis il y a les gens, alors, ça va depuis les mômes là, qui toujours les mêmes. Les mêmes gestes, les mêmes scènes, les mêmes bonheurs, les mêmes cris, les mêmes rigolades, les mêmes... On est un couple amoureux, là, une petite quarantaine, ils ont les amours, les enfants, le papy et la mamie qui arrivent avec le papy qui explique tout, parce qu'il sait tout, un papy, ça sait tout. Non, mais c'est vrai. La finesse du sable. Alors je me demande combien de temps il faut rester, combien de temps il faut savourer et jouir de ça pour lutter, annuler ces vies de merde quand même qu'on a tous les uns et les autres. La recherche du bonheur, ça fait partie des grandes idées révolutionnaires, la recherche du bonheur. Ah, c'est Port-Gouin à côté. Ça, c'est Port-Gouin. Gouin, ça veut dire blanc. Et autrefois, on ne pouvait pas se baigner du tout, là. C'était toutes les eaux usées, dégueulasses, de la sardinerie de Port-Gouin qui était au-dessus, qui se déversait sur cette petite plage. Ça puait la sardine pourrie, le fioul, les sales odeurs. Et c'était comme ça quand les pinasses rentraient de la pêche, les bateaux de sardines s'appelaient des pinasses. Quand ça rentrait, on appelait les femmes. Il y avait des camions qui passaient dans les campagnes, un camion peut-être ou deux, je sais pas, qui passaient dans les campagnes en klaxonnant. Il fallait vite que celles qui voulaient venir travailler quelques jours montent dans le camion. Et puis voilà, elles s'essuyaient les mains sur leur tablier, elles montaient dans le camion. Puis elles venaient bosser quelques jours dans les sardineries jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sardines. Et là, elle se débrouillait pour rentrer chez elle en attendant la prochaine fois. Et tout ça, c'est fini aujourd'hui. C'est le tourisme, c'est la délectation. L'île de la délectation. Mais en tout cas, si c'est pas le bonheur, c'est bien imité. Alors, on va se baigner.
Moi, oh, c'est dur la vie.
La poursuite du bonheur, la poursuite du bonheur. Nous tenons pour évidente par elle-même ces vérités, que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur créateur de certains droits aliénables, parmi lesquels sont la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Que pour garantir ces droits, les hommes utilisent des gouvernements dont le juste pouvoir émane du consentement des gouvernés, que si un gouvernement, quelle qu'en soit la forme, vient à méconnaître ses fins, le peuple a le droit de le modifier ou de l'abolir et d'instituer un nouveau gouvernement. 4 juillet 1776, préambule à la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Ouais. La poursuite du bonheur. Citoyens, identifiez-vous par la pensée au mouvement secret de tous les cœurs. Franchissez les idées intermédiaires qui vous séparent du but où vous tendez. Il vaut mieux hâter la marche de la révolution que de la suivre et d'en être entraîné. C'est à vous d'en déterminer le plan et d'en précipiter les résultats
par l'avantage de l'humanité. Faites-vous respecter en prononçant avec fierté les destins du peuple français. Vengez le peuple de 1200 ans de forfait contre ses pairs. Que l'Europe apprenne que vous ne voulez plus un malheureux ni un oppresseur sur le territoire français. Que cet exemple fructifie sur la terre, qu'il y propage l'amour des vertus et le bonheur. Le bonheur est une idée neuve en Europe. 3 mars 1794, discours de Saint-Just. De pluie qui trop semble des baisers, les yeux de tout ce qui luit sont raison de jalouser, jaloux, jaloux des miroirs,
Louis Aragon,
des morsures de l'abeille,
jaloux,
de l'oubli, de la mémoire, de l'abandon du sommeil, du trottoir qu'elle a choisi, des mains frôleuses du vent, ma vivante jalousie, qui me réveille en rêvant, jaloux d'un chant, d'une plainte, d'un souffle à peine, un soupir, jaloux, jaloux des jacinthes, d'un parfum, d'un souvenir, jaloux, jaloux des statues, au regard vide et troublant, jaloux quand elle s'est tue, jaloux de son papier blanc, d'un rire, ou d'une louange, d'un frisson quand c'est l'hiver, de la robe qu'elle change au printemps des arbres verts, de la voir aimer le feu, d'une branche qui la suit, d'un peigne dans ses cheveux, à l'aurore de minuit. De qui donc est-elle éprise, qu'elle porte ses turquoises? Ah, la nuit me martyrise, avec ses ombres narquoises. Jaloux en toute saison, traversé de mille clous, à perdre toute raison, jaloux, comme un chien jaloux. Jaloux de toute la terre, quand elle arrive un peu tard, tous ses gestes sont mystères, jaloux, jaloux des guitares.
Devant Paulette.
Alors voilà, il faut que je me présente d'abord. Je suis le commandant Pitou.
L'histoire du naufrage.
Ouais, ouais, sacrée histoire, ouais. Incroyable. Je suis pas certain que ce soit le moment, hein, mais bon. On a un mirabellier dans le jardin. Qui non, fait des mirabelles d'enfer.
Tu fais de la mirabelle comme ça ?
Non, 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 on les mange.
Alors, mieux les boire que les manger. Hein.
Mitou, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire ?
Pourquoi
du naufrage
de un peu. Oui, voilà, c'est une histoire de naufrage quand même. C'est une histoire triste, hein, qui se finit bien, mais qui est triste quand même.
C'était en quelle année ?
C'était en 78. Je travaillais dans un centre de recherche, je faisais des photos sur microscope, sur des aciers très spéciaux. On bossait pas mal pour Framatome à l'époque, donc pour le nucléaire, et ça ne m'éclatait pas vraiment, bien au contraire. Et j'ai croisé dans un bistrot un soir un mec que je connaissais pas, qui était en train de discuter avec le patron du bistrot, en lui disant qu'il avait trouvé sur un canal en Bourgogne un magnifique voilier en bois de 1913, super. Les Anglais l'avaient abandonné là, sur le canal de Bourgogne, à côté de Nevers. Et voilà, ce bateau était à vendre. Une poignée de cerises. J'avais quelques toutes petites économies, ajoutées aux économies du copain qui parlait de ce fameux bateau à vendre. Ça permettait d'acheter le bateau. Enfin bon, voilà. On réunit nos petites économies, on achète le bateau. On se décide à partir à Troyes, donc on descend le canal de Bourgogne, la Saône, le Rhône, on arrive en Méditerranée, on remate le bateau. Alors évidemment, content, ça faisait quand même presque 6 mois qu'on vivait sur ce bateau, qu'on bricolait dessus, enfin, ça y est, c'était la récompense, on naviguait au large, c'était génial. On fait une petite escale à Minorque, et puis on attend une météo favorable pour aller au Brésil, pour arriver, pour le carnaval, c'était le but. Parce que j'étais photographe déjà à l'époque, donc le but c'était de faire un reportage photo sur le carnaval vu dans les favelas de Rio. Et donc on repart des Baléares un jour où la météo annonçait des conditions tout à fait favorables pour rejoindre Gibraltar. Et en fait, très rapidement, le temps s'est gâté, on s'est retrouvé dans un flux de nord assez violent, de plus en plus violent, ça devenait vraiment trop fort, on pouvait plus aller contre le vent pour aller se réfugier à Ibiza, ou non, c'était plus possible, on était en fuite, route, ben l'Algérie quoi. Bon, sauf que l'Algérie, on n'avait pas de carte précise, la nuit, on allait à une vitesse folle alors qu'on avait très peu de voile, il y avait des creux effroyables. Et à chaque descente dans le creux des vagues, on avait l'impression qu'on tellement on allait vite qu'on allait se planter dans la vague et qu'on allait passer cul par-dessus tête. Donc c'était vraiment notre flip. Donc on avait balancé tout ce qu'on avait des haussières à l'arrière du bateau avec des choses pour nous freiner en fait, pour aller moins vite. Quoi. Donc on décide, pour éviter d'arriver en Algérie de nuit sur une côte dont on n'avait aucune carte précise, on décide de mettre le bateau à la cape. On se fait un petit frichetif, enfin 2-3 sandwichs, on boit un coup, et puis bon, c'était mon tour de dormir, donc je vais me coucher. Je m'endors. Et, je sais pas, une heure après, je me réveille dans un grand bordel inouï. Je me retrouve dans l'eau, dans mon duvet, le duvet, tu vois, qui te colle à la peau, le bateau à l'envers, collé au plafond du bateau, sous les barreaux du pont. Et il y a un grand trou au-dessus de la flottaison, sur le roof, où il y a les hublots. Là. Et voilà, tout ça, ça a explosé. Il y a un trou de 2 mètres, 2 mètres 50 de long, sur 30 cm de large. On voit les étoiles et le ciel de l'intérieur du bateau. Bon, c'est un peu quand même angoissant. On n'a pas de radeau de sauvetage, on n'a pas d'annexe. On a le bateau, s'il coule, on part avec, donc il ne faut pas qu'il coule. Donc on est très motivé pour le vider. Donc dans le noir, on retrouve un seau, et on vide le bateau, et on vide le bateau. Et dans les seaux qu'on se passe avec frénésie, parce qu'il faut aller vite, il y a la chaîne stéréo, tant pis, à l'eau, tiens, les fringues, les machins, enfin tout, on tripoque. Et tout d'un coup, dans un seau, les fusées de détresse. Et bon, pareil, on allait les balancer, et le copain qui, lui, était à la barre, dit « Non, 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 passez les bois, on va essayer. » Il en jette une première, évidemment, elle part dans une vague. Donc, Puis finalement, au bout de 3 ou 4, il y en a une, quand même, une fusée parachute qui part. Et quelques minutes après, on se retrouve en haut d'une vague, et au loin, on voit une fusée blanche, donc une réponse à notre fusée de détresse rouge. Et donc, alors là, waouh, génial. On continue de vider le bateau, puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on aperçoit les lumières d'un gros bateau. Alors, on ne sait pas ce que c'est, qui s'approche et tout. Finalement, c'est un cargo. Super. Ils éclairent avec des projecteurs. Et puis, ils voient 3 mecs avec un chien. On avait un chien à bord. Oui.
Ah ouais.
Un gros toutou, un berger belge, super sympa. Donc, ils nous remorquent. Et nous, on se dit... Qu'est-ce qu'ils attendent pour nous récupérer? Nous, on pensait qu'ils nous avaient remorqué pour ensuite nous monter à bord de leur cargo, quoi. Et eux, pas du tout. Ils savaient bien, vu la tempête qu'il y avait, que s'ils rapprochaient notre bateau du leur, le nôtre allait exploser contre leur grosse coque en acier, nous, notre petit bateau en bois. Bon. Alors, de temps en temps, tous les quarts d'heure, un coup de projecteur pour voir si tout allait bien à bord. Alors, nous, on était derrière en train
d'hurler en leur disant « Mais on coule, là, les mecs, on coule, quoi. On va crever, c'est con, quoi. Vous nous avez presque sauvés. Ça serait bien de nous prendre à votre bord. » Voilà. Puis bon, à un moment, ils se rendent compte quand même qu'on a le pont vraiment à la flotte et qu'on est vraiment en train de couler. Donc, ils nous halent auprès de leur bateau. Ils nous mettent à couple. Et puis, ben là, ils nous lancent une échelle de corde. Il y a un de nous trois qui arrive à s'en emparer, à monter à bord. C'est mon tour, j'essaie de l'attraper, je l'attrape, le bateau s'écarte, il y a un coup de vague terrible. L'échelle vient frapper sur le bateau, ça m'éclate les doigts contre le machin et je tombe à l'eau. Je me souviens, j'ai la tête qui est contre la coque du cargo, je sens les vibrations du moteur, contre ma tête et tout. Ah, c'est trop con et tout. Enfin bon, les trucs habituels quand tu crèves, tu penses à ta... Non, mais c'est vrai. Vraiment, c'était ça, quoi. Tu vois bien, ouais. Non, mais vraiment, c'est ça. Tu penses à ta mère, tu penses à tous les gens à qui tu... Il y a un moment où t'acceptes finalement le truc parce que t'en peux plus de lutter. Et puis, trou noir, je me souviens de rien. Et quand je reviens à moi, je suis sur le pont du cargo... avec les mains crispées sur le bout qu'ils m'ont envoyé quand ils ont vu que j'étais en train de me laisser aller un peu le long de la coque. Ils essaient de m'enlever les doigts de ce truc où je suis complètement crispé. Les marins du cargo me chopent de force, me rentrent à l'intérieur, me frictionnent, me font boire un grand verre de vodka et m'interdisent de retourner sur le pont pour voir ce qui se passe. Bon, alors évidemment, à l'intérieur, je retrouve le premier larron qui avait réussi à grimper à bord. On fume une clope, on reboit un coup de vodka et on est très inquiet pour notre copain qui n'arrive pas, qui finalement arrive... genre 20 minutes plus tard, exténué et en larmes parce qu'il n'a pas réussi à faire un harnais à son chien pour sauver le chien. On est quand même vachement content d'être tous les trois à bord parce qu'on a eu le temps d'imaginer le pire. Donc on se couche dans la cabine qu'ils nous ont octroyée et puis on sent le bateau qui fait marche avant, marche arrière. On prend des coups de gîte incroyables. On a même eu la trouille. Il y a un moment, on s'est dit « Putain, on va refaire naufrage, mais qu'est-ce qui branle, quoi ?» Et trois quarts d'heure après, le capitaine frappe à la porte et nous dit « Your dog is here ». Et il nous avait sauvé le chien. Putain, absolument incroyable, tu vois. Quand le chien, il peut pas monter une échelle, il peut pas... Ils l'ont jamais lâché avec les projecteurs. Tu vois, la mer était blanche d'écume. Il y avait à peine le bout des oreilles qui dépassait. Par contre, le chien, il hurlait tout le temps. Donc, ils l'ont à l'oreille et avec les projecteurs, ils arrivaient à peu près à le localiser. Ils ont manœuvré pour mettre le bateau... sous le vent du chien, qu'une vague projette le chien sur le pont du bateau. Pas de chance, le chien il est reparti avec la même vague, il a traversé le pont mais il est reparti de l'autre côté. Donc il a fallu qu'il recommence la manœuvre. Il y a un des marins russes qui a mis un harnais et quand la vague a projeté le chien sur le pont, le marin a plongé pour bloquer le chien. Ils se sont mis complètement en danger, enfin ils ont fait un... C'est incroyable, c'est incroyable ce qu'ils ont fait ces mecs.
Et le chien dans tout ça?
Alors le chien, il avait t'en étais bien remis, sauf que tu ne pouvais pas l'emmener en voiture la nuit. À chaque fois que tu croisais une voiture, toi qui voyais les phares d'une voiture, ça devait lui rappeler les feux du cargo. Il hurlait à la mort dans la bagnole, tu pouvais plus quoi. Fallait... Il supportait pas de voir des phares la nuit.
Allô, ça, c'est les vrais Bélilois, ils prennent leur verre pour venir voir le...
J'ai le croupon.
Fais gaffe, tout droit, il y a de l'eau. C'est ton vélo.
Oh, regarde, elle est belle.
Oh,
Mimi.
Magnifique.
Oh,
wow.
Oh, ça va, c'est moi qui l'ai payé, ça.
Mes impôts locaux. Oh,
c'est la mère, Marie Galant, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est Mont-Saint-Laurent. Vous, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part moi des souvenirs d'enfance. En France, violence, manque d'indulgence par les différences que j'ai. Enfant,
Le bateau arrive. Le bateau s'en va.
C'est une chorale du troisième âge. Et ils sont sur le quai. Là, ici, à Palais, à Belle-Île-en-Mer. La moyenne d'âge, c'est 70 ans. C'est génial. Les dames, les messieurs, tous aussi pimpants et gais les uns que les autres. Et ils sont en train de dire au revoir à une copine qui s'en va sur le bateau, qui quitte Belle-Île aujourd'hui. Voilà, le bateau est en train de se séparer du quai. Et les mains s'agitent. Alors là, vraiment, c'est le quai fleuri demain. C'est un vers de Jean Cocteau sur les gares, au temps où les gens se faisaient des adieux sur les quais de gare. Les mains qui fleurissent sur les quais. C'est exactement ce qu'on voit. On dirait un jardin. Regarde. Mais il y a des casquettes. Et on continue de chanter, les foulards. Et on dit au revoir. Et voilà, le bateau va s'éloigner. Il y a toute la manœuvre. Là, ce qui se passe entre le bateau et le quai, c'est la mare. Le lien, c'est la mare. Quand le bateau arrive, quand le bateau part, à chaque fois, il y a cet amarre qui est jeté entre le bateau et l'île. D'abord, il y a la touline. La touline, c'est une petite boule qui fait 15 cm de diamètre et qui est un tissu qui entoure une pierre ou du plomb ou que sais-je, qu'on lance, que quelqu'un de l'équipage lance sur le quai. Au bout de la touline, il y a un bout. Et au bout du bout, il y a la haussière, c'est-à-dire la mare. Et tout ça, ça représente le lien. Tout ça, c'est le lien qui sépare ou qui unit. Ou bien on se retrouve, c'est les retrouvailles. Il y en a une qui lève sa canne. Et c'est l'émotion de la retrouvaille familiale, de copains, d'amour, etc. Enfin, la retrouvaille, le bonheur d'arriver. Ou bien c'est comme là, le revoir, l'adieu. Là, c'est à Laurence. Tout le monde est venu dire au revoir à Laurence. Ils sont une vingtaine, là. Et alors, il y a ceux qui, comme notre copine, qui agitent son foulard. Donc, on va la voir très longtemps. Mais ce qui... Le symbole de ça, c'est ce lien, cette amarre entre le quai et le bateau. Et ça, c'est toutes les heures ici à Belle-Île. Belle-Île, c'est la citadelle, la beauté, enfin tout un tas de choses qui sont sur les dépliants touristiques. Ils oublient l'essentiel, c'est ça. C'est ce théâtre des adieux et des retrouvailles. Et d'ailleurs, les gens ne s'y trompent pas. Sur le quai, là, il y a des bancs. Comme au théâtre, on est assis, on assiste au départ ou à l'arrivée des bateaux. C'est toutes les heures. C'est un théâtre permanent, un spectacle permanent, celui du lien. L'une des raisons pour lesquelles on aime Belle-Île et qu'on y est attaché, c'est ce théâtre-là. Ce théâtre des adieux et des retrouvailles.
On est à peine arrivé, j'ai dit non, moi je... Ah bah elle nous fait au revoir, nous.
C'est vrai ?
Ouais, la fait au revoir. Ça y est, c'est parti.
Dans les fougères, Nos bicyclettes, merci à tous. C'était un reportage d'Anaël Verzo, en hommage à Pierre Barou, évidemment. Merci à Émilienne Ribouchon, dit Mimi, à Elodie, sa petite fille. Merci aussi à Michel Bourdin, dit MeToo, le photographe de bateau de Belle-Île. Merci aussi à Noucha, à Nicole. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis, ainsi que sur le site la-ba.org où vous pouvez réécouter cette émission. À la technique aujourd'hui, Yann Bouillot. Cette émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparée avec Pierre-Yves Bulteau et Stéphanie Fromentin. Attends vos messages sur le répondeur de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37. Demain, on reste à Belle-Île-en-Mer. On parlera d'Auguste Blanqui, qui, oui, Auguste Blanqui a passé 7 ans de prison, enfermé à Belle-Île-en-Mer, et on évoquera son évasion demain. On se retrouve donc demain pour Là-bas si j'y suis, à 15h, mais tout de suite, on retrouve Hervé Pochon, 5 minutes de Pochon en plus.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Est-ce que c'est ça ? Bon, pas atomique ou quoi ? Vas-y, ça va, touche pas. Et c'est là où vous allez ?
Rien, je viens au camping.
Attendez, vous n'avez même pas de bracelet, vous n'avez rien du tout.
Ben, je viens m'inscrire.
Mais éteignez-moi ça, moi, je ne veux pas que vous me parlez.
Ben, me parlez pas, alors. Si vous voulez pas que je vous parle.
Sortez dehors.
Ben, excusez-moi, je viens là.
Oui, sortez dehors.
Ben, dis donc, hein, yes, we can, c'est pas très accueillant, hein.
Quand on est poli, tout le monde, il est poli.
Arrêtez de dire, je suis pas poli. J'arrive ici, monsieur, il dit, c'est quoi, c'est la bombe atomique.
C'est quoi ton problème, là?
Moi, mon problème, c'est que je travaille.
Tu cries pourquoi, là?
Mais je crie pas.
Pourquoi tu cries?
Mais je crie pas.
C'est quoi ton problème?
Mais mon problème, c'est que je travaille.
Reste à ta place, je m'en bats les couilles, ce journaliste, t'as compris?
Mais moi aussi.
Je m'en bats les couilles.
Mais y a pas de problème.
Mais reste à ta place.
Mais moi, je reste à ma place. Bonjour à tous et bienvenue au camping. Voyez, ça démarre bien l'année. C'est un camping à Marseille. Je suis là à l'Estac. J'ai la mer devant moi, petite colline derrière, et puis ce camping fait de caravanes. Yes, we camp est écrit sur une caravane posée sur un container. Bonjour monsieur.
Je me présente, je m'appelle Hervé Pochon, je travaille à France Inter.
Et... Ah, c'est vous Pochon. Bonjour monsieur Pochon.
Bonjour, vous êtes qui?
Moi, je suis Sébastien et j'essaie de m'occuper de tout ce qui à peu près se passe ici en attendant le retour de Nicolas Détry, notre directeur.
Il est où,
c'est
le directeur?
Un temps de pochon en ce moment, hein, un vrai temps de pochon.
Bah non, il fait beau, regardez.
Le directeur n'est pas là et le directeur est en vacances parce qu'on prend aussi des vacances.
Mais c'est normal, même quand on est responsable d'un camping.
Voilà, monsieur Pochon, bienvenue, hein. C'est un plaisir de vous voir, moi je vous écoute.
Mais je sais pas, ça n'a pas l'air là.
Non, tout le monde ne vous écoute pas.
Hein. Non, c'est vrai, là, c'est vrai. Et alors, je voulais savoir, là, les gens qui m'ont un petit peu agressé à l'entrée, qu'est-ce qu'ils font exactement eux?
Alors, ça c'est la médiation sociale. Alors la médiation sociale...
Ah, c'est intéressant.
Ensuite, ils essaient de gérer des personnes que nous, on aurait sans doute eu du mal, puisqu'ils se connaissent, puisqu'ils sont du coin. Bon, appelons ça comme on veut. Ces agents de médiation sont des agents qui viennent d'une association, mais on leur a offert aussi, étant donné qu'on est dans un coin où il y a quand même beaucoup de chômage, moi j'ai un emploi, j'ai un salaire, on leur a offert d'avoir des CDD à travers notre association, à travers la leur. D'accord. Pour qu'ils puissent effectuer leur travail. Voilà, c'est ça pour la médiation. Le matin, ils sont de mauvais poil, il est 10h, le soir, ils se couchent à 4-5 heures, ils ne dorment pas de la nuit. Il y a beaucoup de jeunes, donc ils ne savent pas trop à quoi ils ont affaire, donc ils essaient quand même de nous mettre à l'abri d'autres. Quoi. C'est pour d'accord. ça, peut-être qu'on leur avait fait peur, vous vouliez nous magnétiser, je ne sais pas.
D'accord. Vous voulez pas qu'on aille les voir ensemble ou pas?
Vous voulez qu'on aille les voir? Si vous voulez, on peut aller voir eux, on peut aller au bureau, c'est comme vous voulez. Parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes en même temps. Vous savez, monsieur Pochon, quand on vous croise, il faut vous connaître. Moi, j'écoute France Inter, je sais qu'après votre émission, il y aura sans doute Lopez et...
Ah non, je vais changer maintenant. Et donc après, moi, c'est Frédéric Laudéo. Alors bon, vous avez remarqué, on m'a changé d'emplacement. Au début, j'étais là. Maintenant, on m'a dit, va voir là-bas si j'y suis. Bon, j'étais un petit peu naïf, j'y suis allé. Alors bon, bah maintenant on est là, un peu serré, mais on va essayer de bien s'entendre. Hein.
Parce que vous vous déplacez toujours à des endroits rigolos, c'est marrant. Hein.
La preuve. Je sais pas si c'est rigolo ici, mais c'est ça a commencé un petit peu violemment.
Mais si vous voulez, on peut aller les voir, on peut aller discuter moi, avec eux. Voilà, donc ça c'est nos agents de médiation. Bonjour. Raouf.
Et vous voulez bien parler?
Non, on parle qu'aux gens respectueux, on a du mal aux gens qui nous manquent de respect.
Mais moi je suis respectueux, moi.
Non, c'est respectueux, alors assieds-toi.
Ah, regardez, je m'assois.
Tu veux boire un café ou...
Oh, ça va très bien, merci beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est très apprécié, mais d'ailleurs vous avez remarqué, je ne me suis pas assis avant que vous m'ayez invité à m'asseoir.
Voilà, tu vives, toi, tu rebondis vite, hein. Mais non. Ça va, on a beaucoup d'expérience. Vas-y, pose ta question, je pense que tu es là pour ça quand même.
C'est mon métier, mais bon. Sébastien me disait que vous étiez des médiateurs, ouais, médiateurs sociaux. Ouais.
Alors, c'est-à-dire qu'on fait un travail avec la population par rapport au projet nouveau et Westwick Camp, camping quand même, avec des populations, des personnes âgées, voilà, il y a quand même de la sécurité à faire. Mais le mot sécurité, c'est quelque chose qui ne nous plaît pas. La médiation, on parle aux gens et on arrive quand même à des résultats assez extraordinaires parce que ça marche, quoi. Westwick Camp, à Marseille, 15-16, ça marche.
Mais quand même, pour de la médiation, je trouve que vous avez démarré fort avec moi.
Ah oui, non, parce que oui, c'est comme ça la médiation. Il y a plusieurs degrés. Voilà, et regarde la différence qu'il y a. Est-ce que c'est la même personne? Je m'adapte à la situation. À un moment donné, mon agent de sécurité, de médiation plutôt, il s'est senti offensé. Moi, je leur ai dit à tous ici, je mets toujours du côté. Mais derrière, on discute pourquoi, comment. Il ne s'est pas senti respecté par ton approche.
Ce que je ne comprends pas bien, c'est, encore une fois, je ne porte pas de jugement. J'arrive ici, votre collègue, il me dit, c'est quoi, monsieur, attendez, laissez-moi finir, excusez-moi. Et il dit, c'est quoi, c'est la bombe atomique? Donc moi, je m'approche avec mon micro pour qu'il me le dise bien au micro, parce que j'ai pas...
Tu as besoin de tirer quelque chose, bombe atomique, ça t'a plu?
Bah oui, bien sûr, bombe atomique.
Lui, ce n'est pas le principe, il ne voulait pas rester là-dessus. C'est une façon de communiquer avec toi.
D'accord.
Voilà.
Monsieur Pouchon, je vais vous emmener, venez voir, vous allez rencontrer le directeur artistique.
Ah, très bien.
Le temps de prochain, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
Merci beaucoup.
Tu l'as fait dire, c'est bon, tu es ok, ça compense.
Ça compense, hein, voilà.
Ça compense, voilà. Ouais. On est à un maintenant, voilà. C'est bon. Tu as une preuve de la médiation, hein. La qualité de la médiation qu'on fait.
MAF Assurance, bonjour.
Ah, alors, le MAF Power pour 2013, c'est bien. Mais pour 2014, rien. Les tarifs auto augmentent, bien sûr.
Le MAF Power, c'est la remise auto de 5% sur 2013. Aucune augmentation en 2014.
Aucune?
Mieux, c'est même une baisse des tarifs pour les nouveaux contrats auto 2014.
Oh, Miss MAF, avec le MAF Power, je vous aime aujourd'hui plus qu'hier. Et bien moins que demain.
C'est la MAF.
Conditions sur MAF.fr et dans les agences MAF.
Bon alors, on se retrouve demain à 15h pour la base, si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
Dans l'affaire des disparus de Perpignan, selon France 3 cet après-midi, les empreintes génétiques d'Alison Benitez et de sa mère ont été retrouvées au fond d'un congélateur qui appartenait au père et à l'époux des deux femmes. Cette découverte est le résultat d'expertise menée par un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire. L'appareil en question avait été soigneusement nettoyé par le militaire après la double disparition. Francisco Benitez, principal suspect dans cette affaire, s'est suicidé début août. Il a donné des gages au syndicat, mais il n'a pas encore dévoilé le résultat des arbitrages concernant la future réforme des retraites, notamment sur le financement qui divise les partenaires sociaux. Jean-Marc Ayrault poursuit actuellement ses consultations à Matignon. À la CFDT, il a promis qu'il n'y aurait pas de baisse de pension ni d'augmentation de la durée de cotisation d'ici 2020. Pas de changement non plus pour les fonctionnaires ou les régimes spéciaux. Un compte temps pénibilité sera également mis en place pour prendre en compte la pénibilité au travail. Moscou dénonce aujourd'hui les intentions de certains pays qui souhaiteraient intervenir en Syrie suite au bombardement de la semaine dernière. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, estime qu'une intervention sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, comme l'envisagent Londres et Paris, serait une violation grossière du droit international. En attendant sur le terrain, les inspecteurs de l'ONU sont toujours sur place, sur le site des bombardements. Selon un médecin en zone rebelle, ils ont rencontré des victimes et sont en train d'effectuer des prélèvements. Il s'agit d'apporter la preuve que l'attaque de la semaine dernière était bien chimique. En France, la justice vient de condamner l'État à dédommager un détenu de la prison d'Uzerche en Corrèze, 500 euros au total. Il s'agit d'un manque à percevoir pour le travail que l'homme en question avait effectué en détention. Le détenu âgé de 59 ans s'estimait lésé par la rémunération de son travail effectué pendant 6 mois, de fin 2011 à début 2012. Comment garantir aux Français une faible exposition aux ondes tout en conservant une couverture satisfaisante pour les mobiles? Réponse aujourd'hui dans un rapport publié par le gouvernement. Il faudrait au moins 3 fois plus d'antennes relais pour arriver à ces conclusions. Des simulations ont été menées dans 5 villes de France. TEPCO, le gérant de la centrale de Fukushima au Japon, va faire appel à des experts étrangers pour régler son problème de fuite d'eau radioactive. Il s'agira avec eux de prendre conseil. Le gouvernement japonais lui a laissé entendre qu'il pourrait puiser dans un fonds d'urgence pour financer les opérations de nettoyage. Et lui aussi va mettre en place une équipe spécifique pour les mener à bien. Depuis la mi-août, 300 tonnes d'eau contaminée se sont échappées de l'un des 350 réservoirs assemblés à la hâte pour parer à la catastrophe de mars 2011. Le nombre de Grecs ayant obtenu la nationalité allemande a bondi de 82% l'an dernier par rapport à 2011. Berlin a publié aujourd'hui ses statistiques et on découvre ainsi donc que l'Allemagne est le pays qui attire le plus d'Européens de pays en crise. Le nombre d'Italiens naturalisés, par exemple, a augmenté de 29% en 2012 par rapport donc à 2011. Vous écoutez France Inter, il est encore 16h03. Et tout de suite, on retrouve Christophe Lodéon. Frédéric Lodéon, je vais vous donner un autre prénom, ça y est.
Il y a 2 mois qui sont passés, c'est pour ça, chère Laetitia.
Allez, on vous retrouve, c'est reparti avec vous.
C'est gentil, je suis très heureux de vous revoir
Moi
et de
aussi.
Vous entendre. Carrefour de Lodéon. Bonjour à tous, et bien voilà, on est de nouveau réunis et j'en suis vraiment très très heureux. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou bien que vous continuez peut-être, heureux partant. Et puis quoi qu'il en soit, la musique est toujours là et ce matin je passais devant le kiosque de journaux habituel où je m'approvisionne et puis la marchande avait été remplacée pendant pas mal de temps. Je lui dis « Bonjour madame, vous avez blondi ?» Elle me dit « Oui, c'est le soleil. Je suis rentré chez moi. » Alors je dis « C'est où chez vous ?» Elle me dit « En Iran, je prépare ma retraite et donc je finis de construire ma maison là-bas. Et puis j'ai emporté de la musique, vous savez, plein de musique classique. Et là-haut, dans les montagnes, c'est formidable d'entendre ça. J'ai dit, comment ? Plein de disques ? Alors, non, des clés USB, vous savez. Alors, comme quoi, le classique s'allie parfaitement à la modernité. Chère madame qui vendait les journaux et qui vendait, par exemple, aussi Diapason, notre magazine partenaire, bien, je vous salue. Et quant à Diapason, ben, il nous parle pas mal de choses, mais j'y reviendrai un autre jour. Juste, je vais pointer l'article sur Corelli, 10 raisons d'aimer Corelli. Il est vrai que ce génial compositeur italien, Arcangelo Corelli, a été coincé cette année, un peu étouffé. Il a été coincé entre Verdi, Wagner, Poulenc, Britten, ce sont les anniversaires aussi. Et lui, est né en 1653, il est quand même mort en 1713, donc on ne va pas l'oublier plus longtemps. Et je vous propose d'entendre de ce personnage très modeste un premier concerto grosso. Vous savez que le concerto grosso, ben, c'était un concerto dans lequel il y a une part de l'orchestre, le grosso, la part importante, et puis quelques solistes devant. Et avant, je vais citer une phrase de ce personnage absolument scrupuleux. « Conscient de mon insuffisance et n'ayant jusqu'à ce jour expérimenté qu'au terme de longues et nombreuses corrections, j'ose à peine présenter au public les rares œuvres que j'ai fait imprimer. » Ah ben vraiment, s'ils étaient tous aussi doux, aussi scrupuleux, aussi modestes. Corelli. Thank you. Atterrissage, allais-je dire, conclusion en douceur de cet Allegro du premier concerto grosso opus 6 d'Arcangelo Corelli par l'ensemble Europa Galante dirigé par Fabio Biondi, violoniste également, bien sûr. Il mène du violon comme d'ailleurs les virtuoses italiens au XVIIe et au XVIIIe siècle. Eh bien, après Corelli est arrivé Vivaldi qui a développé le concerto de manière magnifique et qui a offert cette forme tout à fait passionnante à d'autres instruments, pas seulement le violon. Bien sûr, le violon était formidablement en tête, instrument virtuose, petit, facile à transporter. Et bref, il avait toutes les qualités, mais le violoncelle s'est cramponné. Il a réussi quand même à exister et Vivaldi a dédié de nombreux concertos à cet instrument qui a ainsi trouvé une très belle place de soliste. Allegro d'un concerto pour violoncelle en la mineure de Vivaldi par la très brillante Sol Gabetta.